Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Dernière semaine pour rouler à 90 km/h sur la plupart des routes nationales et départementales à double sens. À compter de samedi, les conducteurs devront décélérer à hauteur de 80 km/h maximum, une limitation qui vise à réduire la mortalité routière. Un bilan sera fait dans 2 ans. Sait-on déjà plus précisément quels effets directs ou indirects peut avoir cette mesure? Bonjour Philippe Chrétien, vous êtes délégué général du César, qui est un centre spécialisé en accidentologie. Alors ces 80 km/h vont-ils réussir à réduire le nombre de tués et de blessés sur les routes?
Oui, tout à fait. Je crois que c'est le premier point qu'il faut confirmer, c'est effectivement la baisse de la mortalité. Donc on devrait avoir des effets favorables en termes de fluidité de trafic, notamment le fait que les voitures soient limitées à la même vitesse que les camions. Par contre, comme vous l'évoquez, il peut y avoir des effets indirects.
Effets indirects dans quel domaine, par exemple? Qu'est-ce que l'on peut imaginer en matière donc de défauts de cette mesure, indépendamment du fait qu'elle va rallonger effectivement le temps de parcours?
Voilà, alors d'abord, effectivement, la vitesse, ça intervient directement en termes de sécurité passive. Ça veut dire que les accidents, s'ils ont lieu, seront moins graves. Donc ça, c'est une certitude. On va appeler ça la sécurité passive, parce qu'il y a aussi la sécurité active qui constitue, qui permet donc d'éviter l'accident. Et là, les effets sont beaucoup plus complexes, puisqu'ils sont liés au comportement humain.
Vous pensez à quoi? La fatigue, à l'ennui?
Alors effectivement, l'ennui, ça fait partie d'un effet indirect. Pour imager l'importance de ces effets indirects en sécurité routière, il faut bien noter que lorsqu'il fait beau, il y a plus d'accidents, ce qui peut paraître paradoxal.
Ah oui ? Et pourquoi ?
Alors, il y a une part qui est due au trafic, mais l'écart est plus important que cela. Donc, effectivement, il y a un effet d'ennui, il y a un effet aussi de sentiment de sécurité. Et donc, en sécurité routière, ces effets indirects peuvent avoir un impact plus important des fois que les effets directs qui vont être une de bonnes conditions de route.
D'accord, ça veut dire que quand il pleut, par exemple, on est plus concentré, on est plus
attentif,
prudent.
Tout à fait. Donc je vais vous donner 2 autres exemples, c'est-à-dire si la limitation de vitesse est mal acceptée, il peut y avoir une augmentation des écarts de vitesse entre véhicules, c'est-à-dire les vitesses de rapprochement entre les véhicules, ça mérite d'être analysé. Un autre exemple peut être aussi des phénomènes de compensation, c'est-à-dire qu'en dehors des secteurs contrôlés, il y a des vitesses plus importantes la nuit ou sur les petites routes.
Bon, quoi qu'il en soit, lorsqu'on diminue la vitesse autorisée de 10 km/h, est-ce que la vitesse moyenne des véhicules diminue de 10 km/h ?
Non, pas tout à fait. D'après les analyses qui ont été réalisées, elle aurait diminué de 5 km/h.
Alors, parmi les détracteurs du 80 km/h, on explique par exemple que cette différence de 10 km/h à ces vitesses-là n'engendre pas véritablement de sécurité supplémentaire, tout simplement parce que à ces vitesses-là, un choc frontal, puisque le principal problème sont ces routes nationales où il y a des dépassements, un choc frontal et un choc qui, dans la plupart des cas, est extrêmement grave, pratiquement toujours mortel.
Oui, donc le choc frontal, effectivement, cumule l'énergie des 2 véhicules, l'énergie cinétique. Donc c'est effectivement des accidents à éviter à tout prix. Donc la vitesse qui intervient dans l'énergie du choc, c'est pas la vitesse initiale, c'est la vitesse d'impact, mais les deux sont liés. Donc il est certain que si on abaisse...
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on a parfois le temps de freiner. Alors ça n'empêche pas l'accident, mais ça peut diminuer considérablement la vitesse lors de l'impact.
Ça effectivement donne plus de temps pour réagir et ça réduit les distances d'arrêt, bien entendu. Par contre, il faut réagir. C'est-à-dire, ce qui est très important, c'est que le conducteur continue de conduire.
Est-ce qu'on a des moyens de comparer cette mesure avec ce qui est fait dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a eu des expérimentations du 80 km/h ailleurs qu'en France? Philippe Chrétien, vous qui êtes délégué général d'un centre spécialisé en accidentologie.
Alors, il y a des évolutions dans les différents pays qui peuvent aller à contresens. Par exemple, on peut noter avec inquiétude qu'en Inde, on est plutôt à augmenter les vitesses limites. Donc, j'irais cette évolution à la baisse des limitations de vitesse peut apparaître aussi choquante eu égard aux progrès technologiques qui sont apportés, notamment sur les véhicules.
L'Inde, alors vous allez peut-être me détromper, mais l'Inde, a priori, n'incarne pas un pays en pointe en matière de sécurité routière.
Tout à fait. Notre inquiétude, ce serait plutôt que la situation s'aggrave.
C'est-à-dire que la diminution...
Non, que l'augmentation des vitesses limites aggrave la situation.
Oui, ce qui est a priori ce que l'on peut effectivement avoir comme intuition au départ. Ensuite, toujours parmi les détracteurs de cette diminution de la vitesse à 80 km/h, on dit qu'il y aurait d'autres mesures qui auraient pu être prises, par exemple les radars tronçons donc qui permettent de mesurer la vitesse moyenne sur certaines routes. Est-ce que ça, par exemple, ça vous paraît plus efficace en termes de sécurité routière, Philippe Chrétien ?
C'est effectivement une technologie qui apparaît assez adaptée. Par contre, ça nécessite aussi beaucoup d'analyses. Je pense qu'on n'a pas réalisé toutes les analyses scientifiques nécessaires pour tirer le retour d'expérience qu'on pourrait tirer de ces expériences-là. Hein, donc il y a beaucoup de sujets de ce type-là. Comprendre l'impact maintenant qu'on autorise les vélos à contresens dans les sens uniques ou ce genre de choses. Beaucoup d'évolutions réglementaires qui ont été apportées ces dernières années ou d'évolutions technologiques qu'il faudrait analyser pour bien comprendre tous les effets directs et indirects.
L'une des difficultés de cette mesure du 80 km/h, c'est qu'elle ne va pas s'appliquer sur toutes les routes qui sont aujourd'hui limitées à 90 km/h. Et là, il faut préciser dans quelle mesure, Philippe Chrétien, il y aura une diminution effective sur certaines routes et pas sur d'autres.
Voilà, le critère de distinction, c'est effectivement les routes à chaussées non séparées pour les raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire le risque de choc frontal. Donc les conducteurs auront peut-être un petit peu de difficulté pour se repérer au départ. Ça dépendra effectivement de la mise en place de la signalisation.
Pensez-vous que cela augure d'autres limitations de vitesse, par exemple la fin du 130 km/h sur autoroute ?
Écoutez, sur autoroute, il s'agit des secteurs qui sont relativement sûrs et où il n'y a pour l'instant aucune raison de remettre en cause le 130 km/h. Sur autoroute en France.
Et l'arrivée de la voiture autonome, alors aujourd'hui c'est une technologie balbutiante, demain est-ce que ça pourrait modifier par exemple la vitesse limite ? Est-ce que ces voitures autonomes seraient plus sûres que des êtres humains et donc nous donneraient la possibilité de rouler plus vite sur les routes secondaires ?
Mon point d'attention sera surtout en fait la circulation mixte avec des véhicules autonomes et des véhicules conventionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a à peu près aucun doute sur le fait que à terme, lorsqu'il n'y aura plus que des véhicules autonomes, qui est un avenir qu'on imagine, on pourra améliorer la sécurité et on pourra augmenter éventuellement les vitesses de déplacement sur certains axes. Mais on aura au moins une trentaine d'années de circulation mixte et compliquée.
Merci Philippe Chrétien. Je rappelle que vous êtes délégué général du César, un centre d'accidentologie. Bonne route aux auditeurs qui sont dans leur voiture.